VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 3 octobre 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, au Cameroun, l'ONU condamne les violences dans les régions anglophones et exige une enquête. Une manifestation de l'opposition interdite à Brazzaville. Au Kenya, l'université de Nairobi est fermée après de violentes manifestations des étudiants. Ici aux États-Unis, de nombreuses questions restent sans réponse sur l'auteur du massacre de Las Vegas. Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Cameroun, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux autorités de Yaoundé une enquête sur les actes de violence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du pays le 1er octobre, ce qui, selon lui, a donné lieu à des pertes en vies humaines. Jacques Aristide.
Dans un communiqué, le patron de l'ONU condamne fermement ces actes et se dit profondément préoccupé par la situation au Cameroun. Antonio Guterres exhorte les dirigeants des deux côtés à appeler leurs partisans à s'abstenir de nouveaux actes de violence et à condamner sans équivoque toute action qui puisse nuire à la paix, la stabilité et l'unité du pays. Le patron de l'ONU dit prendre note de l'appel au dialogue lancé par les autorités et encourage les représentants de la communauté anglophone à saisir cette opportunité dans leur recherche de solutions aux griefs de la communauté dans le cadre de la constitution camerounaise. Le Cameroun est confronté à cette crise depuis un an. L'épisode le plus sanglant a eu lieu dimanche avec au moins 17 morts en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis des francophones d'après un bilan établi par Amnesty International. La minorité anglophone proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation dans la société.
Antonio Guterres a également dénoncé l'absence de progrès politique au Mali dans l'application de l'accord de paix de 2015. Le secrétaire général de l'ONU regrette en particulier l'absence de progrès administratif et institutionnel à Kidal et à Tombouctou, ce qui envoie de mauvais messages. À Brazzaville, des membres de l'opposition et de la société civile ont été bloqués par les forces de l'ordre alors qu'ils voulaient manifester. L'opposition voulait interpeller le FMI à la transparence dans ses négociations qu'il mène avec les autorités congolaises. De Brazzaville, la correspondance de Nguilan Gousso.
La place de la pause a été prise ce mardi matin par des policiers pour empêcher le rassemblement de l'opposition et de la société civile. Elles allaient manifester pour plus de transparence dans les discussions entre les FMI et les autorités congolaises. Les retraités et les étudiants qui réclament 9 mois de pension et des bourses non payées, ainsi que les travailleurs des autres entreprises en difficulté de paiement, devaient se rejoindre au centre-ville. Les leaders de l'opposition, dont Claudine Mounari, Clément Mirassa et Charles Zachary Bouaou n'ont pu sortir car bloqués par les éléments de la police au domicile de Madame Mounari. Blanchard Robin, un autre opposant, est resté coincé par les policiers postés devant son hôtel. La manifestation n'a finalement plus eu lieu et le calme a régné sur la ville toute la journée. L'opposition a dénoncé par ailleurs l'arrestation des deux de ses militants pris chez Claudine Mounari. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Les violences en République démocratique du Congo ont poussé près de 3400 personnes à fuir en Zambie en un mois selon le Haut Commissariat de l'ONU. Il s'agit selon le HCR du plus grand afflux de réfugiés ces 5 dernières années. Ajoutons à propos de la RDC que l'Union africaine dit souhaiter un processus électoral apaisé et consensuel dans le pays, sans pour autant avancer des dates alors que l'échéance du 31 décembre est devenue impossible à respecter. Le Burkina Faso, cible de plusieurs attaques terroristes depuis 2015, veut réformer son secteur sécuritaire en organisant un forum national prévu fin octobre dans la capitale Ouagadougou. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, précise que l'objectif est, entre autres, de faire un diagnostic de la situation de la sécurité en vue d'élaborer une politique de sécurité nationale et des plans d'action. Le Conseil de sécurité de l'ONU se rendra du 19 au 23 octobre en Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso, au moment où la force G5 Sahel, toujours en quête d'un financement adéquat, commencera ses opérations, a annoncé hier l'ambassadeur français à l'ONU. La France assure en octobre la présidence tournante du Conseil de sécurité et compte faire de la lutte contre le terrorisme au Sahel l'une de ses priorités. L'université de Nairobi a été fermée ce mardi en raison de manifestations avant la nouvelle élection présidentielle du 26 octobre. Le point avec Nathalie Barge.
La décision a été prise après de nouvelles manifestations des étudiants qui ont bloqué des rues près du campus, entraînant des confrontations avec les forces de l'ordre. Hier soir et ce matin, ils sont sortis pour dénoncer les brutalités policières. Les manifestations ont débuté la semaine dernière après l'arrestation de Babu Owino, ex-président de l'association des étudiants, qui a obtenu un siège de député le 8 août sous les couleurs du parti de l'opposant Raila Odinga. La tension s'est accentuée depuis l'annulation du scrutin par la Cour suprême le 1er septembre. L'opposition conditionne sa participation à l'élection présidentielle du 26 octobre à une réforme de la commission électorale, blâmée par la Cour suprême pour sa gestion du précédent scrutin.
En Ouganda, des engins explosifs, vraisemblablement des grenades, ont visé mardi les demeures des deux députés de l'opposition, très critiques du projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Ce projet a bloqué le Parlement pendant deux jours de bagarres et d'invectives entre les députés. Le président zimbabwéen est de retour en Afrique du Sud. Robert Mugabe a rencontré son homologue Jacob Zuma à l'occasion de sa première visite à Pretoria, depuis que son épouse a obtenu l'immunité diplomatique pour une agression présumée. Et puis le chef de l'opposition du Zimbabwe est sorti de l'hôpital, Morgan Tsvangirai, était soigné depuis la mi-septembre en Afrique du Sud. L'an dernier, le dirigeant du Mouvement pour le changement démocratique avait annoncé qu'il souffrait d'un cancer du côlon et suivait une chimiothérapie. L'Organisation mondiale de la santé déclare craindre que l'épidémie de peste affectant les zones urbaines à Madagascar se propage au reste du pays. La peste a été détectée dans plusieurs villes depuis le mois d'août. C'est une forme de peste qui est hautement transmissible et qui peut provoquer la mort en l'absence de traitement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain est arrivé à Porto Rico pour constater l'étendue des dégâts de l'ouragan Maria, mais aussi pour tenter d'apaiser la polémique suite à ses attaques contre certains élus locaux. Ces déplacements, comme celui prévu demain à Las Vegas, constituent un véritable test de leadership pour le président américain. Stephen Paddock, l'auteur du massacre de Las Vegas, reste une énigme nationale aux États-Unis. Les médias et les spécialistes demandent encore quelles ont été ses motivations. Son portrait avec Yacouba Ouedraogo.
Stephen Paddock, 64 ans, était un comptable à la retraite. Habitué des casinos, il pariait des sommes importantes selon son frère Eric. Étrange et reclus, au dire de ses voisins, il était devenu millionnaire grâce à des investissements immobiliers. Paddock possédait plusieurs maisons. Inconnu des services de police, il a accumulé un arsenal de 42 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions. La suite, on la connaît, 59 personnes sont tombées sous ses balles assassines, 500 autres blessées. Il avait une petite amie, Marie-Lou Danley, une Australienne de 62 ans d'origine philippine, ancienne employée de casino, qui se trouvait à Tokyo au moment de la fusillade. Son père était un braqueur de banque connu qui s'est évadé de prison dans les années 1960 avant d'être rattrapé. Le groupe État islamique a affirmé qu'il était l'un de ses soldats convertis à l'islam, mais le FBI dit n'avoir trouvé aucun lien entre Stephen Paddock et le groupe djihadiste. Comme après toute fusillade de masse, Le débat sur la vente des armes est relancé aux États-Unis.
Nous reviendrons sur la fusillade de Las Vegas dans notre page magazine juste après ce journal. Les États-Unis ont expulsé aujourd'hui 15 diplomates cubains en poste à Washington après de mystérieuses attaques qui ont affecté la santé de 22 diplomates américains à La Havane. Plus de la moitié du personnel de l'ambassade américaine à Cuba a été rapatrié. Les relations diplomatiques avec La Havane sont maintenues, a précisé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, mais les expulsions ont été décidées en raison de l'incapacité de Cuba à prendre les mesures appropriées pour protéger nos diplomates. Citation. Les députés français ont adopté à une large majorité une nouvelle loi antiterroriste, un texte critiqué par les défenseurs des libertés publiques. Cette loi a été approuvée en première lecture par 415 voix contre, 127 et 19 abstentions, deux jours après le meurtre au couteau de deux jeunes filles à la gare de Marseille. À Barcelone, en Espagne, des centaines de milliers de Catalans ont défilé pacifiquement à Madrid au même moment. Le porte-parole du parti conservateur au pouvoir a comparé les dirigeants séparatistes catalans à des nazis. À Gaza, le gouvernement palestinien s'est réuni, une première depuis 2014. Cette réunion est censée matérialiser une réconciliation avec le Hamas. Israël a fixé ses conditions. Elle ne traitera pas avec un gouvernement parlant au nom de toutes les factions palestiniennes que si le Hamas démantèle son bras armé rompt avec l'Iran et reconnaît l'État d'Israël, des conditions qui sont rejetées par le Hamas. En Syrie, au moins 18 civils, dont des enfants, ont été tués dans un raid aérien de la coalition à Raqqa, théâtre de combat pour déloger les derniers djihadistes. Le groupe État islamique s'est retiré, mais la ville n'est pas encore sous le contrôle des forces démocratiques syriennes. Et puis, pour vous rappeler, donc, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minteco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Brazzaville accueille à partir d'aujourd'hui une conférence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la communauté de l'Afrique de l'Est pour accélérer la mise en œuvre du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, du Fonds bleu pour le bassin du Congo, de même que celle de la Commission climat pour cette partie du continent. Des projets que prévoient ces fonds visent à diversifier l'économie des pays concernés, à développer des entreprises, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. La conférence, sous le patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso, prendra fin jeudi. Le groupe hôtelier américain Hyatt va doubler sa présence en Afrique. La chaîne va ouvrir 6 nouveaux hôtels sur le continent d'ici à 2020 et créera plus de 2000 emplois. Ce sera notamment au Cameroun, Sénégal, en Tanzanie, Éthiopie, Algérie et au Maroc. Le groupe affirme que le marché hôtelier africain est en plein essor avec une forte augmentation des voyages sur le continent. La culture, un rôle majeur à jouer dans le développement de l'Afrique, ce sont les mots du chanteur Assalfo, leader du groupe ivoirien Magic System, lors des rencontres économiques Africa 2017 à Abidjan. La star ivoirienne a appelé les investisseurs à s'engager davantage dans le secteur culturel et aux côtés des artistes. Quelques 3600 entreprises africaines et 480 sociétés françaises participent à cet événement.
Et nous accueillons Nicolas Pineau dans ce studio et c'est pour parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On va commencer tout de suite par le football. La liste des 23 joueurs algériens retenus pour affronter le Cameroun est publiée.
L'Algérie, qui est déjà éliminée de ce mondial 2018 en Russie, se présentera finalement à Yaoundé sans aucune de ses têtes d'affiche habituelles pour affronter le Cameroun. Syriad Mahrez et Islam Slimani ont été écartés. Yassine Brahimi a lui déclaré forfait. La Fédération algérienne de football annonce que Faouzi Ghoulam a renoncé à rejoindre la sélection officiellement pour raison de santé. Le sélectionneur sélectionneur Lucas Alcaraz a décidé d'appeler en renfort l'international algérien évoluant à Empoli, Ismaël Benacer. Il arrivera ce mardi à Alger.
Et on note qu'il y a peu de suspense dans ce groupe B, Nicolas.
Oui, le Nigeria est sur le point de retrouver la Coupe du Monde. Les Super Eagles ne sont qu'à une victoire de se qualifier. Et le duel contre la Zambie à Ouyo ce week-end va sentir la poudre. Les Chipolopolo sont à 3 points des Nigérians. Et une victoire zambienne relancerait complètement ce groupe qui a été fatal aux mondialistes. Bye bye, Algériens et Camerounais. Éliminer ces deux équipes s'affrontent donc pour un match sans enjeu.
La Lazio sanctionnée pour les chants racistes de ses supporters.
La Lazio de Rome va devoir fermer son virage nord, l'une de ses tribunes les plus ardentes pour deux matchs. Le club étant à nouveau sanctionné après des chants racistes de supporters. Lors du match contre Sassuolo, une victoire 6 buts à 1 dimanche, ces chants étaient dirigés contre deux joueurs, Alfred Duncan et Claude Adjapong. Le club romain avait déjà été sanctionné pour des faits similaires le 30 avril dernier. La tribune restera donc close durant les matchs du 22 octobre contre Cagliari et la rencontre face à Udinese le 5 novembre.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon. Place à présent au dossier du jour et on commence par la RDC, où le gouvernement annonce que l'annulation des passeports semi-biométriques prévus pour ce 16 octobre a été repoussée au mois de janvier. Cette décision avait suscité la polémique dans le pays, mais le report ne satisfait toujours pas l'opposition qui demande l'abrogation pure et simple de la mesure. Pour réaction, Abdourahmane Dia a joint à Kinshasa le député de l'opposition, Christophe Lutundula.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, les députés nationaux, toutes tendances politiques confondues, de la majorité de l'opposition, ont été unanimes qu'il fallait tout simplement retirer la décision pour deux raisons. Sur le plan juridique, dans la forme qui convient, il fallait un arrêté ministériel. On ne crée pas de droit, on n'annule pas de droit. Avec un simple communiqué. Il faut un acte juridique et la Constitution dit que le ministre agit par voie d'arrêté. Et la raison politique est que cette mesure est la population congolaise qui est concernée et ne se justifie pas du tout. Et donc, nous attendons que M. le vice-premier ministre, qui a promis de nous répondre dans 48 heures, nous amènera une décision qui est conforme à la recommandation de la représentation nationale qui en a le pouvoir et qui est conforme à l'intérêt de tous les Congolais.
Le gouvernement estime qu'il s'agit d'une mesure d'apaisement qui répond un peu aux préoccupations des Congolais qui avaient manifesté pour rejeter cette mesure.
Tous les Congolais, en tout cas l'écrasante majorité de ceux qui ont des passeports, même de ceux qui ne l'ont pas, n'ont pas demandé des mesures d'apaisement. Ils ont demandé qu'on respecte leurs droits. On achète le droit d'user du passeport pour une durée de 5 ans. Donc, de ce point de vue-là, le gouvernement est mis à rude épreuve pour nous démontrer que le gouvernement qui procède de la démocratie, qui suit ce que le peuple veut ou non. Deuxièmement, les députés ont démontré hier qu'aussi bien sur le plan du droit et de la réglementation internationale que sur le plan politique, cette mesure n'avait aucun fondement. Donc il n'est pas question de l'alléger. On n'allège pas le mal. On renonce au mal. Il faut retirer la décision. Ça ne coûte rien au gouvernement.
Et qu'est-ce que vous comptez faire si le gouvernement n'annule pas la mesure tout simplement?
Nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à protester. Évidemment, il va imposer. Nous sommes dans un régime de coup d'État permanent. On constatera que ce n'est pas un gouvernement qui travaille pour l'intérêt de la population.
Le député congolais Christophe Lutundula.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation au Cameroun.
Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Elle exige le retour au fédéralisme sans obtenir satisfaction du gouvernement. Faut-il proclamer l'indépendance des régions anglophones? Comment réconcilier les différentes régions? Comment sortir de cette crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, c'est jeudi à 19h en temps universel.
En RCA, les enseignants ont tendance à privilégier les écoles privées au détriment des écoles de l'État. Cette situation inquiète de plus en plus les élèves et leurs parents. Le ministère de l'Éducation assure que des dispositions sont en cours pour y faire face. Freedom Sipila.
Deux semaines après le lancement officiel de la rentrée scolaire 2017-2018, les cours n'ont pas encore démarré dans la quasi-totalité des écoles publiques. Dans les établissements scolaires privés, par contre, les enseignants dispensent déjà les cours. Selon les élèves, certains enseignants ne respectent pas le planning dans les structures scolaires étatiques au profit des écoles privées.
Vous voyez, sur nos emplois du temps, les professeurs ont souvent 30 heures de cours, mais on arrive à faire seulement 3 séances de cours et c'est fini pour l'année. Donc vous voyez, c'est trop difficile.
Les anciens ne dispensent pas bien leurs cours. Ils ne suivent pas leur programme, les emplois du temps aussi. Ça joue sur nous. On n'arrive même pas à comprendre les cours.
Même si l'État prend du retard à les payer, à un moment, il va toutefois leur donner leur argent. Donc moi, je vois que ça, c'est un faux problème et ça impacte sur l'éducation de notre pays parce que la plupart des parents n'ont pas assez d'argent pour payer les écoles privées à leurs enfants.
Ce comportement observé aussi bien à l'université que dans les écoles secondaires est décrié par Africain Kazangba, président de la Fédération des associations des parents d'élèves.
Oui, c'est un souci également pour les parents. Nous avons cette réaction vive et là, c'est un peu un problème grave que nous avons toujours déploré. Ça joue sur la baisse des niveaux parce qu'il y a un programme qui est établi par le gouvernement et mis à la disposition de ces fonctionnaires-là pour le travail de l'éducation nationale. Et si ça déséquilibre comme ça, ça prouve que vraiment on n'est pas conscient de notre profession puisque nous avons cette vocation d'enseigner et quelque part, il y a un manquement grave pour les parents d'élèves qui sommes nous et puis également pour le gouvernement qui est l'État, qui est l'employeur.
Selon Innocent Paré, secrétaire général du collectif des professeurs vacataires de Centrafrique, les enseignants se livrent à cette pratique pour joindre les deux bouts.
Dire que les gens abandonnent le public pour aller au privé, peut-être sur le plan pécunier, le côté argent, c'est le privé, je paye bien. Donc je pense que c'est vraiment logique que les enseignants interviennent dans le domaine privé pour leur permettre de joindre les deux bouts et pour apporter leur contribution pédagogique en vue du développement de la jeunesse africaine.
Au cours d'une réunion tenue le 30 septembre à Bangui, l'association des professeurs de français a appelé à une prise de conscience. Anatole Aimé Blaise Bangalène, président de l'association.
Bon, là, c'est un problème de conscience personnelle. Lorsque l'État recrute ses enseignants, il les paie, et ce jusqu'à la retraite. Et je sais que nous devons beaucoup plus à l'État qui nous paie. Mais maintenant, délaisser les établissements publics au profit de l'établissement privé, je pense que là, ce n'est pas bien parce que qu'est-ce que nous allons faire des enfants des pauvres?
Pour cette nouvelle année scolaire, le gouvernement prévient qu'il y aurait un traitement différent pour les enseignants. Selon le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il ne faudrait pas continuer d'assister passivement au refus des enseignants de rester à leur poste. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La peste a fait son retour dans la capitale malgache, Antananarivo. L'épidémie a déjà fait 6 morts et sème la panique dans la population qui se rue vers les pharmacies pour trouver des antibiotiques. La grande île est habituée à la peste qui réapparaît presque chaque année de septembre à avril, selon Genia Moulisa, joint Gaël Borghia, journaliste à Antananarivo.
Le dernier bilan qui a été donné par le ministre de la Santé publique, donc 28 décès et en tout, il y a 150 cas de peste à travers l'île.
Est-ce que les gens à Tana ont accès aux médicaments et aux masques de protection?
La représentante de l'OMS à Madagascar, et elle a bien expliqué que la peste se soigne et que le traitement est gratuit. Donc il ne faut pas faire d'automédication. Dès qu'on a les symptômes de la maladie, il faut tout de suite consulter et on peut être soigné gratuitement dans les hôpitaux. Concernant les masques, ils sont en libre-service dans les pharmacies, mais le ministère de la Santé explique que ce n'est pas très utile. Les masques doivent être utilisés par les familles qui ont un membre malade ou personnel de santé dans les hôpitaux qui sont en contact avec les malades, eux doivent porter ces cache-bouches, en fait, ces masques. Mais pour la population en général, il n'y en a pas besoin. Les consignes, en fait, c'est d'éviter les lieux confinés où il y a beaucoup de monde, par exemple les bus ou les marchés couverts.
Quelle est l'atmosphère globale à Madagascar, spécialement à Tana?
La vie continue. Les gens prennent le bus, la rentrée scolaire a eu lieu, donc les enfants vont à l'école, mais il y a quand même un vent de panique. Donc il y a une psychose qui s'est installée dans la capitale. Les gens essaient de ne pas trop serrer les mains, on essaie de ne pas trop parler trop près les uns des autres. Donc il y a une forme de psychose qui est due aux 5 morts qui ont été comptés ces quelques derniers jours. Mais la vie continue, à part les files d'attente devant les pharmacies, rien n'a vraiment changé.
Pourquoi la peste est revenue à Madagascar?
Alors l'OMS a expliqué que la peste existe dans plusieurs pays du monde, notamment en RDC. Madagascar, en fait, connaît une résurgence de la maladie chaque année à la même période, fin août, début septembre. C'est le début de la saison pesteuse et ça dure jusqu'en mars de l'année suivante. Donc là, on a encore quelques mois devant nous. Il y a plusieurs hypothèses à cette résurgence de la peste chaque année. D'abord, il y a les feux de brousse qui ont souvent lieu en juillet-août et qui, en fait, font fuir les rats de la forêt et ces rats arrivent jusque dans les maisons. Ensuite, il y a les retournements des morts, c'est cette coutume ancestrale d'exhumation des cadavres qui peut faire ressortir le microbe. Il y a parfois des morts de peste que les familles déterrent, des morts qui contiennent encore des bactéries et ça peut en fait contaminer certaines personnes.
Gaël Berguier, journaliste à Antananarivo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le tueur de Las Vegas reste jusque-là une énigme nationale aux États-Unis. Stéphane Paddock était un joueur invétéré, habitué des hôtels, casinos et parias, et pariait des sommes très importantes. Il a accumulé dans la plus grande des discrétions un arsenal de 42 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions. Les enquêteurs s'emploient à comprendre le mobile qui l'a fait basculer. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint un habitué de Las Vegas et professeur des sciences politiques à l'Université de Floride, Dr. Richard S. Conley.
Moi, je fréquente la ville assez souvent, l'aéroport. C'est une ville vibrante. Bien sûr, il y a des casinos, des shows, etc. Et pour la plupart, on est en sécurité. On n'a pas de problème avec cette sorte de violence. Mais après 59 meurtres et plus de 500 personnes blessées par cet homme, c'est bien sûr étonnant.
Le problème de port d'armes est de nouveau posé. Comment aborder cette question, professeur?
C'est très difficile. Vous savez, dans une société libre, parce que nous avons le second amendement à la Constitution qui donne le droit à n'importe quelle personne, sauf pour les criminels, d'avoir des armes à feu. C'est très difficile. Comment régler cela? D'arrêter les gens qui ont des motifs pour tuer des gens. Moi, je suis pas psychiatre, mais il paraît, en ce moment, peut-être il avait une rupture psychiatre qui est peut-être la cause de ces actions, mais c'est très difficile.
Il y a le deuxième amendement qui protège le droit de port d'armes, mais en même temps, ces armes tuent toujours des innocents.
Oui, mais les fondateurs de la République ont cru vis-à-vis la tyrannie des Britanniques il y a plus de 100 ans qu'ils fallait absolument avoir le droit de se défendre. Et c'est ça la question. Comment balancer le droit, la possibilité de se défendre contre la tyrannie et en même temps d'avoir la possibilité qu'il y a des gens qui vont commettre ces actes de violence comme ça. C'est un événement terrible qui a vraiment ébranlé la ville de Las Vegas et bien sûr la nation. Mais est-ce que c'est mieux d'amender la Constitution pour arrêter tout le monde d'avoir des armes à feu, même pour se défendre?
Le président Donald Trump, c'est un fervent défenseur du port d'armes. Est-il maintenant confronté à une pire réalité de son administration, lui qui l'a dit qu'il allait réinstaurer l'ordre et la loi dans le pays?
Ben oui, c'est très difficile. Obama, il avait les mêmes défis quand il y a des tueurs en masse comme ça. Quoi faire? Donc le président, il ne peut faire très peu pour empêcher les gens de commettre ces actes de violence. Mais ce qu'il faut, à mon avis, c'est une conversation nationale sur les armes à feu.
Le docteur Richard S. Conley, professeur des sciences politiques à l'Université de Floride. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Lionel Gaïma. Patrick Lumumba était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.